Donc on reste dans 1 Corinthiens, on est au chapitre 13, c'est un grand chapitre sur l'amour. Magnifique et grand chapitre qui fait référence dans la Bible. Quand on pense amour, on pense souvent à 1 Corinthiens 13, même si on ne l'a pas en tête, mais c'est souvent ces versets qui viennent. Alors la semaine dernière, on avait vu la première partie. C'est un magnifique passage, effectivement, l'amour est patient, etc. Et on avait vu donc que l'amour devait être ainsi, verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4. Comment est l'amour? Comment on devrait être quand on dit on aime quelqu'un? Voilà. Et bien on devrait être patient, plein de bonté, sans être envieux, sans se vanter, sans orgueil, ne rien faire de malhonnête, ne pas chercher notre intérêt, ne pas s'irriter, ne pas soupçonner le mal, ne pas se réjouir de l'injustice, mais se réjouir de la vérité. Verset suivant. Tout excuser, tout croire, tout espérer, tout supporter. C'est un peu tout là-haut quand même. Et justement, voilà ce que j'avais dit en douce, c'est qu'on fait souvent l'inverse, on emprunte plutôt le chemin de la décadence plutôt que le chemin de l'excellence. Et nous, on a plutôt tendance à... Bon, à ne pas cocher toutes les cases de la liste, soyons honnêtes. Il y a certains, bon, peut-être qu'on dit, oui, ça, je... Ouais, mais est-ce que tu fais tout? Non. Et avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Avec le Seigneur, c'est 20 sur 20, sinon c'est zéro. Voilà, donc heureusement, le Seigneur connaît nos faiblesses et... C'est Jésus-Christ qui a fait en sorte qu'on puisse avoir 20 sur 20 et accès au ciel, sinon ce serait impossible pour nous. Mais le Seigneur nous demande l'excellence et de faire nos efforts, ça s'appelle la sanctification. Alors on va lire la suite du chapitre, versets 8 à 13. Versets 8 à 13. Vous vous rappelez qu'avant ce passage, Paul parlait beaucoup des dons, des prophéties, parlait en langue, etc. Maintenant il aborde l'amour et hop, il fait un saut de puce, maintenant il va faire la liaison entre les deux. C'est la pensée divine, puis la logique, c'est intéressant de toujours d'étudier un livre parce qu'on voit la progression, on voit l'enchaînement, et là, effectivement, on avait vu les dons, prophéties, on saute à l'amour, on dit tiens, eh ben non, il y a bien un lien entre les deux, Paul le fait à présent. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Prions. Seigneur, la plus grande de ces choses, c'est l'amour, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Seigneur, nous allons étudier ta parole ensemble. Ta parole, c'est toi qui l'as rédigée, Seigneur, c'est toi qui l'as... révélé, c'est toi qui l'as délivré pour qu'elle soit à nous aujourd'hui, devant nous. Elle est bonne pour nous. Elle a été écrite il y a bien longtemps, mais nous verrons que c'est encore vraiment d'actualité. Et Seigneur, ce sera aussi pour nous ce matin, je l'espère. En tout cas, parle à nos cœurs, tu connais nos vies. Seigneur, que ce soit toi qui éclaire nos âmes. En Jésus-Christ. Amen. Alors, on va voir trois points ce matin. L'aspect éphémère des dons, ce qu'il dit, tout ça, ça va cesser. Mais aussi, s'il y a des manifestations du Saint-Esprit, quelles sont celles qui doivent apparaître dans nos vies? Ensuite, on verra un processus de croissance, vous avez vu avec l'enfant, etc., qui est devenu homme ensuite. Et là, on va voir la progression de la révélation divine aussi. Et puis, on verra au final, au bout de tout ça, qu'est-ce qui est essentiel, finalement. Qu'est-ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qui est le plus important? Alors, l'apôtre commence, donc il fait un premier parallèle. Donc, il oppose l'amour qu'il avait exposé au chapitre 12. Et puis là, il fait la liaison donc, avec les dons. Regardez le premier verset, verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. D'un côté, on a deux choses. On a un parallèle entre des choses qui sont quelque chose qui est éternel et quelque chose qui est éphémère. Qu'est-ce qui est éternel? L'amour. C'est pour toujours, les amis. Ouh, ça va nous rassurer quand même. Qu'est-ce qui est éphémère? Les prophéties, les langues et la connaissance. Pourquoi l'amour est éternel? Qui est amour dans la Bible? Dieu. Dieu est amour. Est-ce que Dieu est éternel? Donc si Dieu est amour et que Dieu est éternel, l'amour est éternel. Voilà, tout simplement, hein, c'est presque une lapalissade, mais c'est tout à fait logique. Regardez ce que dit 1 Jean 4, 16, par exemple. 1 Jean 4, 16. 1 Jean dit que c'est l'apôtre de l'amour. Paul, c'est pas mal aussi, hein, dans ses descriptions de l'amour. Mais Jean, c'est vrai qu'il est quand même très, très orienté sur l'amour de Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour, déjà, voilà, on a confirmation. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc voilà ce que le Seigneur nous demande aussi. Hein. C'est pas seulement lui est amour, il veut aussi qu'on demeure dans cet amour, voilà, et qu'on vive vraiment cet amour. Alors ça, l'amour, c'est éternel, et Dieu veut que tout le monde vive l'amour. Voilà. C'est pas... Il n'y a personne qui a reçu le don de l'amour. Quoi. Ou alors, au contraire, c'est tout le monde qui a reçu, tous les chrétiens ont reçu le don de l'amour. S'il n'y a pas l'amour en nous, c'est qu'il n'y a pas le Seigneur, quelque part. Hein, donc il va manquer quelque chose. Certains vont dire, moi, j'ai le don de ceci, de cela. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais quelqu'un qui disait, c'est a priori très fort pour certains dons spirituels du Saint-Esprit, et on va y venir après. Et il y a des fois, il me dit, voilà, j'étais chez cette femme et je lui ai guéri son genou instantanément et tout, d'accord. Je lui ai dit, c'est bien, je lui ai dit, ok. Et elle était chrétienne, il me dit, pas du tout. Je lui ai dit, tu lui as parlé du Seigneur. Il me dit, oh, j'ai même pas pensé, il me dit. Je lui ai dit, mais c'est quand même dommage, parce que le Seigneur, dans Matthieu 28, il me dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous a pas dit, allez, guérissez les genoux de ceux qui ont mal aux genoux, quoi. Il a bien dit, faites des disciples. Il y avait une porte ouverte fantastique, peut-être, pour... peut-être que le Seigneur a fait quelque chose de grand à ce moment-là, voilà. Mais en tout cas, il y avait une porte fantastique ouverte pour lui parler du Seigneur, elle a dit, j'ai même pas pensé. Alors, si on a le don, voilà, si on prétend avoir certains dons, voilà, on verra après, mais si on n'a pas l'amour ou l'envie de faire venir les gens au Seigneur, il manque l'essentiel. Donc, ces dons qu'on a vus l'autre fois, rappelez-vous, on avait vu que la majorité d'entre eux avaient un but, ces dons à l'époque, les prophéties, les guérisons, les miracles, les parler en langue, etc. C'était dans le but d'édifier l'Église parce que la révélation n'était pas complète de la parole de Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 1, c'est un petit rappel. Éphésiens 2, verset 20, chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous vous rappelez de ce schéma qu'on avait vu ? La fondation, c'est les apôtres et les prophètes, c'est la révélation de Dieu. Les prophètes ont amené une très grande partie de l'Ancien Testament, les apôtres ont amené la majeure partie du Nouveau Testament, l'essentiel. Hein. Et puis, dessus, l'Église s'est bâtie. Donc, les dons, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, parce qu'on a déjà toute la révélation complète. Si on veut proclamer Dieu, si on veut connaître le Seigneur et si on veut l'annoncer aux autres, pas besoin de prophétie, suffit juste d'ouvrir sa Bible, et il y a tout à l'intérieur. Ces dons, au départ, ils étaient là pour montrer aux païens la puissance de Dieu. Voilà, c'était un signe fort au début de l'Église pour annoncer cette nouvelle alliance hein, qui se mettait en place, et puis cette Église qui débutait. Mais regardez que ces dons-là, on avait vu, je rappelle un petit peu, mais Hébreux 2, versets 3 et 4, Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, c'est pas tout le monde qui avait ces dons-là. Hébreux 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut en Jésus-Christ ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui ont entendu le Seigneur ? Les apôtres. Voilà. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, ceux qui étaient avec le Seigneur ont entendu les paroles du Seigneur. Ils ont reçu quelque chose d'assez fort qui leur a permis de faire des signes, des prodiges et divers miracles qui servaient à quoi ? À appuyer leur témoignage. C'était ça l'idée. Hein. Parce que le témoignage, il fallait qu'il soit reçu. Certains auraient dit, bon, c'est des fables, etc. Il fallait quelque chose de fort. Et le Seigneur a choisi les dons du Saint-Esprit au départ. Donc ces dons, c'était pour les apôtres. Et bien justement, ceux qui disent qu'ils sont encore apôtres aujourd'hui, hein, je répète un petit peu ce que j'avais dit peut-être il y a quelques jours, mais vous n'étiez peut-être pas là. Ceux qui se prétendent apôtres aujourd'hui, il y en a, ils se disent « je suis apôtre, apôtre du Seigneur, le Seigneur m'a dit que... » Ben souvent, ils conditionnent le fait que vous soyez chrétien à une chose, et c'est assez étonnant, c'est souvent une chose pour eux, c'est si vous parlez en langue. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas vraiment chrétien, vous n'êtes pas vraiment le Seigneur et vous n'êtes pas vraiment sauvé, quoi. Si vous n'avez pas le don du Saint-Esprit, il va vous manquer un truc. Alors, vous parlez en langue, les amis ? Moi, je me débrouille en espagnol. Je suis pas trop mauvais. Mais le Seigneur m'a accordé cette grâce de parler en langue espagnole pour pouvoir m'exprimer avec des frères et sœurs espagnols. J'ai un excellent frère qui est irlandais, qui parle français mieux que nous tous réunis. Il a un niveau de français qui est remarquable. Il maîtrise la langue française, mais d'une façon... Waouh, il me bluffe à chaque fois. Et c'est un évangéliste de premier rang. Et quand il prêche en français, bah, il est à l'aise, quoi. Le Seigneur lui a donné le don de parler en langue française, et qui était un don merveilleux. Et on est beaucoup à en profiter quand on échange avec lui. Est-ce que vous êtes un chrétien authentique ? Vous êtes un vrai chrétien ? Vous donnez votre cœur au Seigneur ? Vous avez le Saint-Esprit ou pas ? Ouais. Vous parlez en langue ou pas ? Voilà. En roumain, Hugo, tu parles roumain ? On va voir si c'est le don de la langue qui est important. Regardez avec moi. On peut se poser la question, hein. Vous aspirez au don du Saint-Esprit ? Quand je parlais avec cette personne l'autre jour, elle me disait « faut que tu parles en langue ». Okay. Alors, regardez les manifestations du Saint-Esprit qui doivent être visibles. Est-ce que c'est le parler en langue ? Est-ce que c'est la guérison d'un genou ? Est-ce que c'est un miracle ? Est-ce que c'est tout ça ? Regardez Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. On va voir comment doit vivre le témoignage, la manifestation que l'on doit voir dans ceux qui marchent par l'Esprit. C'est toujours Paul, hein ? Il dit, je dis donc, marcher selon l'Esprit. Donc il parle à des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. Hein. Marcher selon le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ah oui, parce que si je pouvais faire ce que je voulais, les amis, je serais peut-être en train de dormir, parce que j'aurais bien fait la grâce matinée ce matin. Voilà. Et ça, c'est pas trop méchant, mais il y aurait des péchés bien pires que ça. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Voilà, si on voulait se faire ce qu'on voulait, si on n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu, on serait là. Hein. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, division, dispute, secte, envie, ivronnerie, excès de table, et toutes les choses semblables. Voilà. Et blablabla, parce qu'il y en aurait tellement plus. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit. Alors voilà, mes amis, est-ce que vous avez reçu le fruit de l'Esprit ? Vous avez le Saint-Esprit de Dieu ? Alors voilà ce qui doit se voir dans votre vie. Le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est quoi ? On doit voir de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de vous. La loi n'est pas contre ces choses. 9 critères, les amis. Si vous avez le Saint-Esprit, voilà ce qu'il doit y avoir en vous. Si vous marchez selon l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est guérison, parler en langue, miracle, blabla. Non, pas du tout. Ce qui doit se voir dans vos vies, dans la vie des chrétiens, c'est l'amour, la joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà, les amis. Vous avez 20 sur 20 là-dessus ? Pas moi. Voilà. Paul y conclut comme ça. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. C'est comme ça qu'il conduit ce passage. Donc voilà comment on doit marcher. Alors si vous êtes rempli du Saint-Esprit, amour, paix, bienveillance, maîtrise de vous, etc. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop les autres, vous êtes toujours triste, vous n'êtes pas en paix du tout, vous êtes impatient. Bon, alors là, il ne faut rien vous demander. Vous n'êtes pas du tout bienveillant pour un sou. La foi, ça va, ça vient. Douceur, vous n'êtes pas connu pour ça. Puis maîtrise de vous-même, alors là, pas du tout. Je pense que vous avez un gros examen de conscience à faire. En tout cas, il y a du travail. Et c'est là où le Seigneur veut vous appeler ce matin. Voilà le but à atteindre. Alors, ça, c'est la première partie. Donc, Paul, il fait un petit peu ce lien entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Et le but à atteindre, voilà, la liste est longue, les fruits de l'amour dans Galates 5, 22. Ensuite, il va parler de la croissance. Seigneur, c'est bien que... Ça, c'est le but à atteindre, mais c'est bien qu'on ne va pas l'atteindre du premier coup. Hein. C'est pas la conversion que Fabrice, il est « Waouh, super, parfait, en tout, l'amour, la joie, la patience, on maîtrise tout ça. » Pas du tout. C'est très bien que c'est un processus qui commence à la conversion, qui va durer jusqu'à notre dernier jour, et qui s'appelle la sanctification. Et je suis même convaincu qu'au dernier jour, quand le Seigneur va me rappeler, ben, je ne serai même pas au niveau là, franchement. Mais en tout cas, il sait qu'il y a une progression et c'est le travail qu'on doit faire chaque jour. Alors, il va aborder le thème de la croissance. Voilà. Il va faire un parallèle maintenant entre, premièrement, c'était les dons et l'amour, et maintenant, c'est entre la progression des chrétiens, la progression aussi de la révélation divine, et puis donc, comment on passe d'enfant à homme. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Il y a encore des enfants parmi nous, hein, qui sont plus jeunes, vous êtes encore des enfants, ne soyez pas choqués par ça. Et puis nous, on est devenus des hommes. Et on se rappelle comme on était il y a quelques années en arrière. On ne voyait pas du tout les choses pareilles. Et oui, aujourd'hui, je suis devenu homme, bah, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, quoi. Voilà. Donc on était petit, on voyait les choses différemment, puis en grandissant, on change. Voilà. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas donné de tout comprendre d'un coup. La révélation divine, c'est progressif. On sait bien, Dieu sait bien que quand on arrive, quand on se convertit, on ne va pas tout comprendre les 1000 ans du règne du Seigneur, et s'il vient avant, après les 1000 ans, et est-ce qu'on est prédestiné ou pas, ça c'est des grands débats qui sont difficiles. Et c'est qu'au début, on n'a pas la capacité à tout comprendre. Un petit bébé, vous ne commencez pas par lui sortir théorème de Pythagore. Alors, le biberon, c'est composé à 75% de lait, 25% d'eau. Il faut que tu le boives à tel niveau de température. Il faut que tu inclines ton coude à 45 degrés. Voilà. Petit à petit, pour ne pas t'étrangler. Vous imaginez, si vous faites ça au bébé, il ne va rien comprendre. Quoi. Il va arriver, vous le prenez, vous lui mettez le biberon, ce sera bien suffisant. Il va avoir confiance en vous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il veut pas forcément que vous commenciez par des choses très compliquées. Sa révélation, elle a été progressive. Depuis Genèse, sa première révélation à Adam et Ève, c'est de dire tu écraseras le talon, etc. Ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est un début de quelque chose pour faire comprendre à Adam et Ève qu'ils auront besoin d'un rédempteur et que c'est la descendance de la femme qui va venir sauver l'humanité. Mais au début, il n'explique pas le plan complet. Et même l'Église, elle est encore cachée dans l'Ancien Testament, elle se révèle dans le Nouveau. Mais Dieu a pris le temps, plusieurs siècles, pour révéler tout ça. Alors donc, Paul, il explique aussi pour nous, c'est pareil, hein, il prend cette image de l'enfant. Quand le bébé il est encore dans le ventre de la maman, il mange quoi ? Bah, il s'alimente par la maman, quoi. Hein ? Il s'alimente par la maman. Quand on vient au Seigneur, on est. Donc là, c'est la nouvelle naissance. Donc là, on est, on devient un bébé, un vrai bébé. Alors maintenant qu'on est sauvé, on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on va manger au départ ? Côte de bœuf. Oh non, le bébé, il ne supportera jamais ça. Regardez 1 Pierre 2, chapitre 2, versets 2 et 3. Vous êtes jeune converti, n'allez pas sur Internet, la nourriture est très mauvaise, c'est de la malbouffe en général. N'allez pas sur Internet. Très attention avec les lectures que vous avez. Commencez par la Bible. Première étape, toute la Bible, lisez tout. Voilà. Deux évangiles, d'abord le Nouveau Testament, ce sera plus simple, vous arrivez sur la révélation de Christ. Pourquoi c'est plus simple ? C'est parce que dans le Nouveau Testament, vous avez Christ et toute la révélation de l'Ancien Testament qui s'explique. Ce sera plus facile à comprendre. Avant de pouvoir lire le reste, il faut avoir l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Après, vous allez pouvoir comprendre l'Ancien. Si vous commencez par l'Ancien, ça va être un peu plus difficile. Voilà. Alors, que nous dit 1 Pierre ? Désirez comme des enfants nouveau-nés. Voilà, vous venez de vous convertir. Vous êtes des enfants nouveau-nés. Désirez le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut. Alors, le lait spirituel et pur, notre traduction, c'est le lait pur de la parole. Voilà, qui est plus clair, hein, la parole de Dieu. Donc, si vous venez de vous convertir, vous lisez quoi au début ? Le biberon ? La Bible. Lisez votre Bible, toute votre Bible. Ça va être suffisant pour faire grandir tout votre être, toute votre âme. Deuxième phase, celui de l'état adulte. On est des enfants au départ. Ensuite, on va devenir des hommes. Donc là, effectivement, là, vous allez pouvoir commencer à lire d'autres lectures parce que vous allez avoir un esprit critique. Vous n'allez pas être emporté par, comme une girouette à tout vent de doctrine, nous disait Paul aussi l'autre jour. Donc là, à partir du moment où vous avez la connaissance de la Bible, vous allez pouvoir étudier le reste et approfondir les textes, etc. Mais commencez d'abord par lire votre Bible. Trop souvent, on entend des chrétiens, on leur pose la question, ils sont convertis depuis plusieurs années, on leur dit « Vous avez déjà lu votre Bible tout entier ?» Ils disent « Jamais. » Je lis de temps en temps un petit truc par là, parfois j'ai lu quelques livres, mais jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Ne répondez pas, c'est entre vous. Est-ce que vous avez déjà lu votre Bible de Genèse à Apocalypse ? Si c'est pas votre cas, mes amis, perdez pas le temps. Commencez comme ça. Parce qu'en plus, si vous lisez les livres un peu dans le désordre, vous n'avez pas la progression forcément de la révélation, quoi. Lisez bien, je donne peut-être cette envie, j'espère, pour cette nouvelle année 2020. Lisez votre Bible de Genèse à Apocalypse, voilà. Lisez tout. Vous êtes jeune converti, lisez d'abord le Nouveau Testament, l'Ancien ensuite. Si vous êtes plus ancien dans la foi, lisez tout de Genèse à Apocalypse. Enfin, on fait des études bibliques, je crois qu'on voit bien justement la révélation, comment elle est progressive, comment elle se déroule. Donc c'est très important de lire comme ça. Regardez ce que dit Paul. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Il va parler à des juifs, là. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Aussi à des chrétiens. Et peut-être à nous ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Les Corinthiens, là, ils n'avançaient pas dans le Seigneur. Alors, il y avait des juifs, des non-juifs, enfin, il y avait un petit peu tout dans l'Église, mais en tout cas, il y avait beaucoup de conflits dans la communauté. Et quel que soit notre arrière-plan, Paul explique la raison, c'est parce que vous ne vous laissez pas conduire par le Seigneur. Et puis, vous êtes encore au lait, quoi. Vous êtes encore un bébé dans la foi, quoi. Vous devriez être déjà... Alors voilà, c'était le texte d'après, où c'est vraiment pour les Juifs. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment pour les Corinthiens, pardon, excusez-moi. C'est vraiment pour les Corinthiens, mais il y avait aussi des arrière-plans juifs dans cette église. Mais il leur dit, voilà, vous devriez être beaucoup plus fort dans la foi, mais je ne peux pas vous parler mieux que ça, parce que vous êtes des bébés, quoi. Vous êtes encore animés par votre nature, alors je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter, quoi. Bah déjà, quand on lit un Corinthien, on dit, ouais, déjà, c'est quand même assez solide, quoi. Pour Paul, ça, c'était du lait, ça. Ce qu'on est en train de voir depuis plusieurs mois dans Corinthien, pour lui, c'était du lait, ça. Paul, waouh, j'attends la nourriture solide, on la trouve par ailleurs, mais c'était quand même assez costaud, quoi. Et donc, voilà, Paul, il fait le même reproche qu'aussi vraiment à des Juifs. Regardez dans Hébreux 11, versets 5 et 14. Alors là, il parle aux Juifs. Alors, je dis Paul, bon... Moi, je fais vraiment partie de ceux qui pensent que l'épître aux Hébreux est rédigée par Paul, parce que quand je lis toutes les épîtres et que je lis Hébreux, c'est tellement le style de Paul que, mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas mentionné. Alors, on va dire l'auteur de l'épître aux Hébreux. Voilà, qu'est-ce qu'il dit aux Juifs ? Il fait en fait un parallèle dans le chapitre 11 entre la fonction de grand prêtre dans l'ancienne alliance et puis Christ. Et puis, il dit donc, Hébreux 11, versets 5 à 14. Pardon, mon frère, c'est verset 11. Hébreux 11, 11. Non, alors c'est peut-être Hébreux 5, verset 11. Hébreux 5, verset 11, voilà. Petite inversion, hein. J'ai mis 11, 5, c'est 5, 11. Voilà, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il parle aux Juifs. Les Juifs, ils ont eu la révélation de Dieu dans les Écritures depuis plusieurs siècles. Et il leur dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus sur Christ, qui serait le parfait, le souverain sacrificateur, etc. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset suivant. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vas-y, avance. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Vous voyez, d'un côté, il y a le lait de la nourriture de base, et puis ensuite, il y a la nourriture solide. Dans la Bible, il y a du lait, il y a de la nourriture solide, rassurez-vous, il y a un petit peu de tout. Au début, commencez par le Nouveau Testament, qui est plutôt du lait. Nourriture solide, ce sera plutôt l'Ancien Testament. Et ensuite, allez lire des commentaires, etc. Allez voir des prédicateurs et vous aurez votre propre analyse. Mais ne faites pas l'inverse. Commencez pas par la nourriture solide et la côte de bœuf avant de commencer par le biberon, quoi. Sinon, l'enfant sera malade, si c'était un bébé. Et si c'est vous, ça va vous amener aussi beaucoup de problèmes, certainement. Alors, mes amis, soyons pas des mauvais élèves, hein, parce que là, ils leur tirent les oreilles. C'est la période des conseils de classe en ce moment. C'est le premier trimestre. Mes enfants, on est avec vous. au conseil du classe de Seigneur, c'est comme si un petit peu, les juifs, là, il leur dit un petit peu, tous les ans, vous redoublez, quoi. Tous les ans, vous ne passez pas d'une classe parce que vous êtes devenu lent à comprendre et vous êtes toujours là, toujours là. Et vous en êtes au principe de base. Donc, soyons des bons élèves et grandissons bien dans la foi. Et ça passe par quoi? Par la lecture de la Bible. Donc, Paul finit ce parallèle. La révélation est progressive, la croissance aussi va être régulière. Et on va grandir dans le Seigneur au fur et à mesure qu'on va grandir dans sa parole. Mais je l'ai dit tout à l'heure, et c'est lui qui l'avait dit, eh bien à la fin, au dernier jour, on ne sera toujours pas comme le Seigneur, parce que, voilà, il faudra que le Seigneur se révèle à nous pour qu'on puisse le connaître parfaitement. Alors là, on vient de voir comment le Saint-Esprit doit être visible dans nos vies, les fruits de l'amour, etc., comment on doit grandir. Et bien maintenant, Paul, il va nous dire, voilà, ça c'est le but à atteindre, mais vous allez l'atteindre à un moment. Versets 9, 10 et 12, dans 1 Corinthiens 13. Donc il a posé les bases de ce qu'on doit vivre dans nos vies, comment on doit grandir dans le Seigneur. Maintenant, il dit, voilà, c'est la croissance, allez-y. Mais nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il faudra attendre de voir le Seigneur, mes amis. Et c'est là où on va le connaître concrètement et parfaitement tel qu'il est. On a la Bible et c'est suffisant, mais c'est vrai qu'il y a encore des fois, on se dit, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, alors là, ça me dépasse. Et comment Dieu a pu être créé s'il est éternel? Il n'a jamais eu de commencement. J'arrive. Dans mon esprit, dans mon cerveau, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que on est encore dans des corps d'hommes, il y a plein de choses comme ça, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et le départ de Michael, on n'arrive pas à le comprendre non plus. Rationnellement, on se dit, mais un serviteur zélé du Seigneur, avec une petite famille, comment? Pourquoi? Bon, le Seigneur nous révélera des choses, nous révélera son plan plus tard. Il en parle aussi dans Jérémie 31, 31 à 34. Il parle de choses aussi, justement, qui vont arriver bien après et qu'on aura la vraie révélation du Seigneur. Regardez dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Dieu dit une chose. Il annonce une période. Là, on est dans Jérémie. Alors, Jérémie, on est loin, on est encore plus loin qu'avant Jésus-Christ. Et voilà ce que dit Dieu au peuple juif, par l'intermédiaire d'un prophète. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci, ce peuple, n'enseignera plus son prochain, ni celui-ci, là, son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ah, c'est une belle promesse, hein. Alors, elle a débuté il y a 2000 ans, les amis, cette alliance nouvelle. On l'a pris tout à l'heure en partageant la scène. On a partagé que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés à tous. Et que si on vient à lui, on fait partie de cette alliance nouvelle que Dieu à présent a écrite il y a 2000 ans. Il a fait une nouvelle alliance. Et elle a débuté il y a 2000 ans. On est ainsi passé de la loi à la grâce. On n'est plus sous la loi à présent, on est sous la grâce de Dieu. On n'a plus à respecter la loi parfaitement parce que c'est pas qu'on n'a plus à la suivre parfaitement, mais c'est qu'on est conscient qu'on la suivra plus parfaitement. Il y a toujours l'objectif d'avoir 20 sur 20, mais le Seigneur sait bien qu'on n'était pas capable, donc il nous a placés sous la grâce, et c'est la grâce du Fils de Dieu mort sur la croix qui nous permet d'être sauvés si on passe par lui, parce que lui, il a 20 sur 20. L'image, ce sera un petit peu comme à l'école, on a le droit de copier sur le copain qui a toujours 20 sur 20, parce que lui, il a tout bon. Et on peut même prendre sa copie, la prendre en disant « c'est nous qui avons écrit ça !» Parce que finalement, il a rédigé pour nous la bonne copie, et ce qui nous permet de... Voilà, d'avoir accès au Père. Alors, cette prophétie, elle a débuté, mais est-ce qu'elle est entièrement consommée? Est-ce que là, tout est accompli? Est-ce que là, il n'y a plus besoin d'enseigner en disant « il faut que vous connaissiez l'Éternel » car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On aimerait bien, hein. Ce n'est pas encore le cas. Ça a commencé, mais ce n'est pas encore consommé. On est encore dans le déroulé de cette prophétie-là. Mais il y aura un moment quand le Seigneur va venir et va régner. Ah oui, toute la terre le connaîtra, sera remplie de la gloire de l'Éternel. Et alors, tout le monde connaîtra le Seigneur. Il n'y aura plus besoin d'évangéliser parce que le Seigneur sera là, il régnera. Donc il n'y aura plus besoin à ce moment-là. Effectivement, voilà, on le connaîtra parfaitement à ce moment-là. Mais pour l'instant, on a encore une révélation qui est imprécise, comme au moyen d'un miroir, dit Paul. Et il prend cette image parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de fabricants de miroirs. Et c'était des miroirs en bronze qui déformaient un peu les images. Donc il prend leur image à eux et dit, voilà, ce sera comme un miroir un peu, vous savez, les miroirs déformants. Vous avez des fois dans des parcs d'attractions, il y a des miroirs, vous êtes très maigre d'un coup et vous dites, oh, j'ai réussi. Ou alors vous dites, oh, j'ai pris un peu de poids, j'ai grandi, etc. Quoi. C'est des miroirs qui déforment. Alors aujourd'hui, l'image, c'est qu'on voit partiellement, on ne voit pas tout, on comprend beaucoup de choses. On n'a pas encore la révélation complète. Quoi. Certains disent que c'est alors, quand le Seigneur va régner, qu'il n'y aura plus de prophéties et plus de dons, il n'y aura plus besoin parce qu'il sera... Oui, c'est exact en partie, mais c'est surtout en partie inexact. Parce que la plupart des dons ont pris fin, déjà, dès à présent, et je crois qu'on a déjà débattu beaucoup dessus. Au fur et à mesure où Paul rédigeait ses épîtres, on voit que plus on avance proche de nous, plus les dons changeaient et qu'on ne retrouvait plus dans les dernières épîtres la prophétie, les parler en langue et tout, on était sur d'autres dons, dons de présidence, de bienveillance, d'amour, etc. C'était plus des dons magiques, entre guillemets. Aujourd'hui, pour connaître le Seigneur, on a besoin de la Bible et c'est tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'autres révélations. Voilà. Sinon, ça voudrait dire quoi? La connaissance de Dieu ne sera pas complète dans la Bible parce qu'il y a encore des choses difficiles à comprendre, qu'on ne comprendra pas tout de suite, c'est vrai. Mais c'est suffisant pour que notre esprit humain puisse recevoir le salut et c'est bien l'essentiel. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on doit encore ajouter des prophéties. S'il y en a qui disent « Le Seigneur m'a dit pour toi que… » On me l'a fait il n'y a pas longtemps. Je ne vous raconte pas l'anecdote, mais bref. « Le Seigneur m'a dit quelque chose pour toi. » Bon, la personne avait tout faux, ça n'avait rien à voir avec moi, donc il s'est complètement trompé. Et je peux affirmer que ça n'avait rien à voir avec moi, ce qui m'a pris pour quelqu'un d'autre. Ou du coup, plutôt, il a pris Ruth pour quelqu'un d'autre. Voilà. Si certains disent qu'il y a encore des prophéties de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, la Bible est incomplète? Ça veut dire qu'il manque des choses à écrire dedans? Non, pas du tout. Ça veut dire que depuis 2000 ans, on a des frères et des sœurs qui viennent ici, là, enfin pas ici, mais qui prêchent à un micro, devant des gens qui prêcheraient une parole qui est incomplète? On serait bien malheureux. On serait bien malheureux. Ce que le Seigneur a placé dans la Bible, c'est ce qui est suffisant pour nous et ce qu'on est à peu près capable de comprendre, même s'il y a des choses difficiles. Il n'y a rien besoin d'autre. Et à un moment, il y a un passage qui dit qu'il soit maudit celui qui va ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose. Il n'y a rien, tout est dedans. C'est suffisant. Même si on ne comprendra pas tout, les amis. Il y a des choses difficiles, mais c'est suffisant pour nous. Regardons un autre passage aussi. Non, celui-ci, voilà, je ne vais pas détailler parce que sinon je vais vous compliquer peut-être dans cette réflexion-là. Mais en tout cas, Jean, il nous parle ici d'espérance et du retour du Seigneur aussi dans le passage que je devais lire et que je n'irai pas ce matin. Mais en tout cas, que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 13? Regardez comment il conclut. On va lire quand même 1 Jean, parce que ça fait ma transition et sinon je ne suis pas complet. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Il parle à des chrétiens. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Alors on aurait pu lire le verset d'avant aussi, mais ça va, c'est bien pour ce matin. En tout cas, voilà, quand le Seigneur va paraître, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Pour l'instant, on attend de voir le Seigneur. Vous êtes impatient de voir le Seigneur? Ouais, moi aussi. Michael, il est avec le Seigneur. Il est bien heureux à présent, Michael. Il est avec son Seigneur. Et puis maintenant, il a l'accomplissement. Il voit Christ tel qu'il est. Il va dire, Seigneur, j'avais même pas imaginé que c'était aussi parfait que ça, si beau, si magnifique. J'avais même pas tout compris finalement. J'aurais jamais pu imaginer à quel point tu es aussi glorieux. Voilà, on n'imagine pas tout ce que Michael vit à présent. Mais en tout cas, nous, on est encore ici. Et le Seigneur, voilà, nous dit, voilà, mais le jour où il paraîtra, voilà, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est et nous attendons ce moment. Alors, ça nous donne une espérance, c'est celle du retour du Seigneur aussi. On attend que le Seigneur revienne, vu qu'il l'évoque ici. Et bien justement, voilà, ce qui fait donc la transition avec la conclusion de 1 Corinthiens 13. Paul finit cette partie en disant, 1 Corinthiens 13, le dernier verset, c'était le verset 13, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On a 4 heures maintenant pour faire cette partie-là, mais on va faire en 10 minutes. Alors, maintenant, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc, il résume tout en foi, espérance, amour. Si on a Christ, effectivement, on doit avoir ces trois choses. La foi, déjà. Qu'est-ce que c'est la foi ? Eh bien, il y a la description dans la Bible. Hébreux 11, ouais, verset 1, regardons. La Bible elle-même définit la foi, donc pas besoin d'ouvrir le gros Larousse ou le petit Robert. Vous avez vu, c'est le gros Larousse et le petit Robert. Deux tailles différentes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi ? C'est en fait croire quelque chose qu'on ne voit pas. On attend, on a la ferme assurance, on espère quelque chose qui va venir là, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Donc, Dieu, est-ce qu'on le voit, Dieu ? Ah non ? Mais on a la ferme espérance qu'il existe, qu'il est vrai, qu'il va revenir. Donc, on a la foi, voilà. Donc, si on est chrétien, on a la foi. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi. Quelqu'un qui dit « je suis chrétien », il n'a pas la foi, bah, il ne peut pas être chrétien parce qu'il ne peut pas voir Dieu. Donc, automatiquement, il ne pourrait pas être chrétien. Donc, si on est chrétien, si on est sauvé, on a la foi. Est-ce qu'on a l'espérance ?
Reviens en arrière.
Hébreux 11, 1. La foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère. Donc, si on a la foi, on a l'espérance. C'est logique. Donc, si on est chrétien, on a premièrement la foi et deuxièmement l'espérance du retour du Seigneur, notamment. Et troisièmement, si on est chrétien, on doit avoir l'amour. Jean 13, verset 35. Jean, c'est, je vous l'ai dit, un apôtre de l'amour. D'ailleurs, il dit lui-même comme l'apôtre que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous faites des miracles, parce que vous prêchez dans des langues inconnues, parce que... Non. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi ? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc si on est chrétien, on a tout d'abord la foi, deuxièmement l'espérance, et troisièmement, on doit avoir de l'amour. C'est à cela, notamment, qu'on va reconnaître les disciples des Seigneurs. Alors Paul, il avait commencé son argumentation du chapitre 13 en disant, regardez chapitre 13, verset 1, dans 1 Corinthiens, il avait ouvert la parenthèse, il avait ouvert le chapitre en disant, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien finalement, un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et il conclut maintenant le chapitre 13, sa pensée, hein. Ce n'est pas Paul qui a fait le chapitre 13, hein. C'est les hommes qui ont découpé de telle façon que ce soit cohérent. Effectivement, sa pensée s'arrête ici à présent, pour ce bloc. Il a commencé en parlant de l'amour et il dit « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. » Mais il termine en disant, il a commencé en disant « Au-delà de tous les dons magnifiques, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » Et il termine en disant oh, « On peut avoir une foi, une espérance énorme, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien non plus, finalement. » Pourquoi ? Parce que la chose la plus importante... C'est l'amour. Alors pourquoi, à votre avis, c'est l'amour ? Pourquoi pas la foi ? Pourquoi pas l'espérance ? Ben, quand on verra le Seigneur parfaitement, quand il va se révéler à nous, quand on sera au ciel ou s'il revient, est-ce qu'on aura besoin de la foi ? On va le voir. On n'aura plus besoin d'avoir la foi vu qu'il sera en face de nous. Est-ce qu'on aura besoin de l'espérance de le voir et de l'espérance de son retour ? Ben, ça y est, c'est accompli. Est-ce qu'on aura encore besoin de l'amour ? Eh oui, c'est ça qui va rester à la fin. Quand on sera au ciel avec le Seigneur, vous n'aurez plus besoin de foi, vous n'aurez plus besoin d'espérance. Ça y est, c'est fait. Hein. Vous aurez besoin d'amour. Voilà. Et c'est ça qui restera à la fin. Donc Paul, il dit, voilà, trois choses demeurent, foi, espérance, amour, mais la plus grande des choses, celle qui va vous tenir et celle qui est éternelle. La foi et l'espérance, c'est éphémère, comme les dons, mais l'amour, lui, il est éternel, parce que ça va être jusque dans l'éternité. C'est pour ça que c'est celui-ci qui demeure. Quand on sera au ciel avec le Seigneur, eh bien on pourra vivre pleinement l'amour de Dieu parce qu'on le connaîtra tel qu'il est, cet amour, pleinement, le vrai amour on connaîtra. Et c'est là où on pourra vraiment vivre cet amour. Il n'y aura plus le péché comme ici qui détruit tellement de choses, qui salit tellement de choses. Là, ce sera un amour pur dans un monde sans péché. Wow. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Viens Seigneur, Maranatha, reviens. prends-nous avec toi, voilà, on veut te voir, Seigneur, tel que tu es, on veut te voir glorieux, on veut être avec toi maintenant. On est vraiment hâte que le Seigneur revienne, j'espère que c'est votre souhait aussi. Voilà, ben, ce sera à ce moment-là qu'on aura la stature pleinement d'homme mûr et accompli, hein, parce que là, on connaîtra l'amour et là, on sera parfaitement édifié en lui. J'espère que c'est votre souhait aussi. Vous attendez le retour du Seigneur. Amen. Alors, je vais conclure. Ben, voilà, pour rappeler que l'amour est éternel et que les dons, même la foi, hein, l'espérance, tout ça, ça, c'est passager. Ça va durer un moment, mais c'est l'amour qui sera dans l'éternité aussi. Alors le chrétien, en attendant, il doit grandir et s'édifier sur la parole et la connaissance de Dieu pour se bâtir dans l'amour, hein, les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, ne cherchez pas les dons de l'esprit magiques, spectaculaires. Travaillez, Galates 5, 22, paix, amour, joie, bienveillance, maîtrise de soi, patience, bonté, etc. Il y en a 9. Voilà. Il faut que vous soyez très bon dans les 9. Et puis malgré tout, il faut être conscient que malgré tous nos efforts, on ne sera jamais tel que le Seigneur est lui-même. Voilà, il faut le reconnaître. Il n'y a qu'à son retour qu'on le verra tel qu'il est. Et alors on aura une pleine connaissance de lui. Alors Dieu nous a laissé des dons et des grâces, comme la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, celle qu'on doit vivre entre nous, c'est l'amour. Voilà. Alors mes amis, que le Seigneur revienne vite. Et qu'en attendant, il nous aide à grandir dans l'amour, à le vivre vraiment les uns avec les autres. Hein, que ce ne soit pas de la théorie. La vie chrétienne, c'est de la pratique. Ne soyez pas super fort en théorie, soyez fort en théorie, mais surtout en pratique. Mais la théorie, ça compte. Si vous n'avez pas la théorie, vous n'aurez pas la pratique. Voilà. Il faut être très bon dans les deux, mais n'ayez pas que de la théorie. Ayez aussi beaucoup de pratique. Voilà. Et je rappelle ce dernier chant tout à l'heure, c'était « Car en servant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. » Donc soyons aussi au service des uns des autres dans tout ce qu'on peut faire. Prions. Seigneur, il y a le côté éphémère, le côté éternel. Le côté éphémère, c'est notre vie d'ici-bas, avec nos efforts, nos échecs, avec des attributs, Seigneur, qui sont passagers, même s'ils sont beaux, Seigneur, comme la foi, l'espérance. Mais il y a surtout les choses éternelles. Et tu as dit que le plus important, c'était l'amour. Parce que tu es éternel toi-même, parce que tu es amour toi-même, et parce que tu veux que nous soyons à ton image. Seigneur, nous voulons tellement te ressembler. Et tu nous as donné ta parole qui est complète et suffisante aujourd'hui. Il n'y a rien à ajouter et elle est suffisante, Seigneur, pour que nous puissions te connaître dans notre condition d'homme charnel aujourd'hui. Seigneur, que nous soyons à ton image. Aide-nous, Seigneur, à grandir en toi, à lire ta parole, à nous édifier sur celle-ci, Seigneur, à ne pas nous laisser emporter à d'autres vents de doctrine. Mais Seigneur, nous savons que au bout du compte, nous ne te ressemblerons pas parfaitement, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs, bien incapables, Seigneur, d'avoir 20 sur 20 à la loi, Seigneur, et même à la grâce. Et puis nous avons besoin de te voir tel que tu es pour te connaître parfaitement. Seigneur, nous aspirons à ce moment, où alors nous serons transformés, nous serons avec toi. Et nous partagerons ce grand banquet aussi, Seigneur, et nous serons tous réunis. Et puis nous passerons l'éternité avec toi, et alors il nous restera quoi ? L'amour, Seigneur. Alors que nous puissions exercer cet amour ici-bas, dès à présent, dans la vie de chaque jour avec nos sœurs, nos frères, mais aussi avec ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas. Que nous ayons des paroles pour eux, Seigneur, pour les faire venir à toi. Qui n'aurait pas envie de partager l'amour que tu nous donnes ? L'amour n'est pas égoïste, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc nous devons le partager à d'autres, Seigneur. Que nous soyons généreux dans l'amour que tu donnes, afin de le partager au plus grand nombre. Mais nos forces sont limitées et nos maladresses sont importantes. Aide-nous, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur, apporter cette parole aux autres. Nous t'en prions, Seigneur, que ces dons de l'Esprit, Galates 5, 22, prennent toute leur puissance et leur place en nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen, mes amis. On va chanter un dernier chant.